parce qu'il y a beaucoup de cas qui ont émané de cas de violence, notamment la mort de Jacques Côté, justement, au lac Saint-Charles, qui a émané de ça, de « je peux pas amener, je suis policier, je le constate, mais je peux pas l'amener parce qu'il me dit non. » Alors, on veut venir améliorer la loi là-dessus, ça va être une bonne chose.
Mmh, absolument.
C'est l'heure maintenant du...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
OK, Antonine Iaccarini, tu commences à me connaître.
Un peu, ouais.
Moi, j'en ai pas de préféré en politique. Je suis pour les bonnes idées. Quand il y a des mauvaises idées, ben je le dis que c'est une mauvaise idée, selon mon interprétation. Quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ben je le mentionne. Et là, si on prend présentement la campagne électorale municipale, je vous le dis depuis que je suis en nom dans le boulevard 102-1, que moi, ce n'est pas un tramway, c'est un SRB. Fait que vous comprenez que Bruno Marchand et Claude Villeneuve qui prônent le tramway, moi, je commence par un SRB. Vous comprenez aussi que la taxe à l'immatriculation, je ne suis pas pour ça parce qu'il y a un ménage au RTC à faire avant de charger les citoyens. Si je regarde Claude Villeneuve, je l'ai critiqué énormément sur ses sorties face à sa maman. Ah, il fait de l'intimidation. Ah, de l'IA. J'aime moins ça. J'ai critiqué Jackie Smith qui veut nous mettre 240$ de taxes à l'immatriculation. Je pense pas que ça doit passer par là. Mais là, j'ai pas le choix. Puis je le sais qu'il y en a qui l'adorent parce qu'il y a un discours très gestion des finances publiques rigoureuse. Mais j'ai pas le choix de parler de Stéphane Lachance et de ses promesses électorales au niveau du cadre financier parce que et faites des calculs hier, puis je vois pas comment ça va marcher.
Ah, oh, t'es plate, Jeff. Là, des calculs, là.
Ouais, je sais.
T'aimes pas ça, les baisses de taxes?
J'ai lu les états financiers de la ville de Québec hier soir. Tu sais, quand ma blonde, des fois, elle dit « Ouais, je te trouve bizarre. Qu'est-ce que t'es en train de faire? » J'épluche les états financiers de la ville de Québec.
Fun times.
Fun times. En écoutant une conférence de Bruno Marchand. Hey, c'est-tu pas le fun, ça? Quel beau mercredi soir, après m'être entraîné. Cardio à côté dans le piton. Fait que je commence avec, justement, une citation de Bruno Marchand par rapport aux promesses de Stéphane Lachance hier à son point de presse devant le conseil municipal.
Chaque fois que quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Après ça, ils pourront couper, broyer plein de services de la ville, ils nous diront lesquels, mais on peut pas dire on va faire des coupures aussi drastiques que M. Lachance le propose sans que ça ait d'effet très important sur le service aux citoyens. C'est impossible. M. Lachance, sa plateforme là, financière, elle ne balance pas. Son cadre financier ne balance pas. Puis je vais vous donner juste un exemple, on y reviendra quand on va présenter le nôtre et tout ça. Là, on va y revenir, mais M. Lachance, ça ne balance pas. M. Lachance dit « Je vais rembourser 500 millions de dettes sur 4 ans. » Et il met un peu en exergue en disant « Si le gouvernement, dans ses programmes, continue de nous aider, bon, etc. » Enlevons cette dernière partie. 500 millions, et je vais le prendre dans la réserve climatique. C'est ça qu'il vous a dit. La réserve climatique, en 2029, n'aura pas 500 millions en encaisse.
La réserve climatique, là, c'est un beau mythe, OK? Et je t'explique. C'est une réserve que Bruno Marchand voudrait voir dans les 4 prochaines années augmenter à 300 millions, donc 75 millions par année. Mais là, il y a plusieurs personnes, dont Stéphane Lachance, qui dit « Moi, je vais prendre cet argent-là, puis je vais le mettre ailleurs. » Ouais, mais c'est parce que cet argent-là, à sert à faire des travaux. Et je vais t'en nommer un. 218 millions sur la rivière Lorette. Fait que je fais quoi? Je laisse les inondations se passer là?
Ben oui, c'est ça.
C'est ça que
logiquement,
je fais.
C'est ça que ça veut
exactement
dire.
Exactement. Alors là, on commence le calcul, OK? Admettons que sur le 75 millions, il y en a... Je vais être bonjour avec Stéphane Lachance. Il y en a 50 % qui sont mal dépensés. Il reste quand même un 37,5 millions à trouver en quelque part. L'inflation, je l'ai mis à 2,5 % Le budget est d'1,6 milliard, le budget des dépenses de la ville.
T'as fait un fichier Excel puis tout.
Oui, donc 40 millions. Alors, on est rendu à 77,5 millions que Stéphane Lachance doit trouver. Le gel de taxes qu'il promet. L'an passé, quand on a augmenté les taxes à l'inflation, c'est 33,6 millions. Alors là, je suis rendu à 111,1 millions. Et là, juste pour l'année prochaine, que Stéphane Lachance doit couper ou trouver pour la Ville de Québec. Gel de taxes commerciales. Ça va coûter à peu près 20 millions à la Ville. Alors, je suis rendu à 130 millions
Gel et réduction de taxes.
Oui, gel 10%. Et réduction de 10 %, c'est ça. Fait que même, je pourrais mettre 40 millions.
Oui. Okay.
Bon. Fait que je suis rendu à 150 millions de dollars. OK? Là, il y en a qui vont me dire, « Ah, oh, le marché fait des pistes cyclables. » Bon, c'est parce que c'est 12,5 millions dans le budget.
Mm-hmm. Puis,
fait qu'il reste 137 millions à trouver. Et là, Comment on va faire ça? On va couper dans l'administration? La ville?
Et voilà, c'est que la pensée magique, et c'est toujours ce qu'on nous sert quand on nous présente des promesses comme celles-là qui sont alléchantes pour le portefeuille. Et moi, j'aime ça me faire réduire mes taxes. Je veux juste être bien clair. J'aime bien ça. Mais quand on leur demande, OK, mais où est-ce, comment on éponge cette perte de revenus-là, on nous dit, je vais mieux gérer, je vais couper dans le gras, on va être plus efficace. Moi, je m'excuse, mais tu peux pas. Cette démonstration-là, elle ne se fait pas en ce moment.
Couper
dans le gras,
faut qu'il y ait du gras. Et savez-vous que la Ville de Québec, présentement, ses coûts administratifs sont de 35,4% du budget. Ça fait de la Ville de Québec, elle se classe au deuxième rang des plus grandes villes canadiennes. Donc, elle est sur le podium. Alors, où je vais couper du gras? Parce que normalement, une ville pourrait aller jusqu'à 40% dépenses administratives. On est à 35,4%. On est en dessous. Alors, où Stéphane Lachance va prendre son 140 millions coupés? Il n'y aura pas le choix, il va augmenter les tarifs. Fait que c'est quoi? Il va augmenter les canjos? Il va augmenter les stationnements? Il n'y a pas le choix.
Ou il y a des services qui ne seront pas rendus comme il faut.
Exactement.
Mais expliquez-nous. Moi, si à un moment donné, on nous dit, pour nous, la priorité, c'est de baisser dans vos portefeuilles. On trouve que l'argent a plus de valeur dans vos poches individuelles que dans les coffres de la ville. OK, parfait, mais dis-moi avec transparence, qu'est-ce que tu vas couper, par exemple? Parce que ça, c'est encore la même recette de nous faire des promesses qui sont alléchantes, qui sont sexy, qui pognent, et après, incapable de les livrer une fois que tu arrives dans la vraie administration. Puis là, tu fais les calculs, puis là, tout le monde te dit, c'est pas possible. Est-ce que vous voulez couper dans le déneigement, dans les travaux urgents, dans les routes? Qui sont en pas si mauvais état à Québec, il faut le dire. Et là, ça, cette recette-là, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça augmente le cynisme. Là, les gens qui vantent Stéphane Lachance comme étant la 8e merveille du monde présentement, bien, devant les faits là, puis les chiffres qui ont la tête dure, là, bien, ils vont être les premiers à être hyper déçus puis à dire finalement, tous les politiciens sont pareils.
Puis je sais pas ça se passe comment dans leur camp, parce qu'on s'entend, on sait tous que c'est pas réaliste. Comme plateforme, on sait tous que c'est pas réaliste ce jet de taxes. Est-ce qu'eux autres aussi en sont conscients ou ils se croient vraiment? Puis s'ils en sont conscients, ça veut dire qu'ils mentent en pleine face des citoyens.
Ouais, c'est une très bonne question. Je pense qu'ils peuvent le croire parce qu'ils croient vraiment qu'il y a du gras à couper. Mais à ce sujet-là, Sam Hamad est beaucoup plus réaliste quand il dit « Moi, ça va être 96 millions sur 4 ans que je vais aller récupérer. »
Et il le dit, Sam Hamad. Il dit « Je suis conscient qu'il y a d'autres personnes qui vous font des promesses. » plus intéressante. Moi, je préfère être réaliste et vous dire les vraies choses.
Exactement.
Honnêtement, c'était la meilleure annonce de sa maman depuis le début de cette campagne-là. Et c'est vrai. Et quand tu le mets en contraste avec Stéphane Lachance, ça nous saute d'en face là, à quel point le réalisme là, est plus du côté de sa maman dans ce cas-ci.
T'as entièrement raison. Puis Bruno Marchand, je le dis depuis 2 ans, il n'est pas vraiment attaquable sur la gestion financière de la ville. D'un, il a son Top Gun avec Luc Monty à la tête de la Ville de Québec. T'sais, le mérite revient beaucoup plus à Luc Monty qu'à Bruno Marchand.
Oui, puis pour ceux qui connaissent moins Luc Monty, c'est quelqu'un de l'ombre, là. C'est un mandarin de l'État, mais c'est quelqu'un qui a été au Conseil du Trésor. C'est un top gun des finances.
Là. Placé là par Régis Labeaume, quand Régis Labeaume a décidé d'implanter un cadre financier à la Ville de Québec. Donc lui, il fait juste suivre ce que Régis a décidé en 2018. Il dit « OK, c'est beau, je m'en vais par là pour justement rembourser la dette et la baisser à 70%
Mais t'as raison, du revenu. » Quand tu fais une stratégie, n'importe quelle stratégie, tu fais un force-faiblesse, menace-opportunité là, dans la ville, puis tu le fais pour tes adversaires aussi. Et tu vas attaquer sur les faiblesses.
Exactement.
Sinon, tu fais juste te fatiguer à taper dans quelque chose que tu ne seras jamais capable finalement de briser. Puis la question des finances, c'est pas une bonne cible. Il y a d'autres choses, par contre. Là.
C'est ça, la faiblesse de Bruno Marchand. Mobilité active, on investit beaucoup trop d'argent là-dedans. Tu peux frapper sur le tramway, tu peux frapper sur la taxe immatriculation, je vais réussir à le dire. La taxe des chats, tu peux frapper sur le développement économique, mais les finances,
C'est un point fort.
La firme Maudit qui a justement dit bye-bye, décote au gouvernement du Québec, a donné la meilleure note à la Ville de Québec.
Bon, voilà.
Clos. C'est dit, sujet clos. On s'en va sur le tramway, juste pour continuer justement avec les promesses de Stéphane Lachance.
OK, mais vous souvenez que nos paiements sur le tramway se font à la fin. Vous vous souvenez de l'entente qui a été faite? Donc, les paiements se font à la fin. Donc, dans les prochaines années, présentement, remettre le tramway en question, on n'économise pas sur nos dépenses prévues, parce que ces dépenses-là se font à la fin. Et l'autre chose qui est importante, c'est que toutes les pénalités qu'il va payer, il va les prendre nous. L'argent, ça se crée pas, là. C'est facile de dire aux gens, non, moi, regardez, je vais rembourser 500 millions sur la dette, je vais prendre la... Non, ça ne fonctionne pas. Il n'est pas capable de rembourser 500 millions sur la dette aussi rapidement. Et en plus, il va avoir un effet énorme sur le service aux citoyens. Énorme.
Je veux juste répondre à un auditeur qui disait hey, « Je suis auditeur fidèle, mais sérieusement, soyez critique également pour tous les candidats. Ben, » c'est exactement ce qu'on fait.
Écoutez-nous à tous les jours.
Ouais, puis là, je viens de le faire pour Bruno Marchand. Je suis contre le tramway, je suis contre la taxe à l'immatriculation, je suis contre la taxe aux chats, je suis contre 12,5 millions d'impistes cyclables, puis je trouve qu'ils ne développent pas économiquement la ville adéquatement.
Oui.
Fait que je viens de t'en nommer 5 sur Bruno Marchand, puis je peux continuer l'énumération pour sa maman des Claude Villeneuve.
Puis il y a des bonnes journées pour chacun des candidats et des mauvaises journées pour chacun des candidats. Si vous nous écoutez à tous les jours, vous allez le constater.
Exactement. Donc, on est critique très, 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 très égal. Le tramway, c'est 7,6 milliards, OK? Il y a une entente qui plafonne à 750 millions la part de la ville, donc à peu près à 9 %. Et ça, même si le tramway viendrait être plus cher. À l'heure actuelle, le tramway, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 1 milliard de dépensés, mais c'est pour des infrastructures souterraines. C'est qu'on a pogné les infrastructures, on les a tassées dans le dessous du tramway parce que quand on va avoir à aller faire des correctifs, puis on a profité pour les améliorer. Et la ville a payé seulement 9 % de ceci. Normalement, elle aurait dû payer 25 % parce que dans des programmes d'infrastructures, les paliers de gouvernement supérieur payent 75 % et la ville paye 25 %. Alors, si demain matin, j'arrive puis je dis « tramway, no way », puis vous avez entièrement le droit, mais pensez que vous allez devoir 140 millions de dollars
exact.
À nos paliers de gouvernement supérieur. C'est juste la vérité parce que les gouvernements vont dire « pas trop, mais on respecte ta décision en tant que maire ». Mais tu nous dois 140
et
millions
voilà.
de dollars pour les infrastructures parce que là, je te l'ai payé parce que tu allais mettre un tramway.
Que tu sois contre le tramway… C'est bien correct, hein? Puis il y a un débat politique
oui.
à avoir là-dessus.
De toute façon, je le répète, moi, je suis pour un SRB.
Bon. Mais si ton argument, c'est une question de liquidité cette année pour faire balancer ton budget, ça ne fonctionne
non.
tout simplement pas.
Vraiment
Maintenant,
pas.
Les travaux qui sont en train d'être faits, par contre, t'sais, on pourrait, là, ce qu'on est en train de faire, ça pourrait servir à un SRB, mais on a quand même des pénalités. Pour les contrats qui sont déjà
oui,
signés.
Exactement. Mais c'est pour ça que Sam Ahmad va sur un SRB aussi. Il y en a plusieurs qui disaient « Pourquoi Sam Ahmad ne fait pas comme la chance, c'est juste qu'il va améliorer la RTC? » Ben, c'est parce qu'il a conscience de ce 140 millions-là
oui.
plus d'autres millions. Il ne vous le dira jamais, mais il a conscience de ça.
C'est pour ça qu'il coupe un peu la poire en deux avec un autre projet.
Exactement. Bon, Antonine, on a parlé de mon sujet qui était les finances de la Ville de Québec. Là, parle-moi d'un sujet qui te passionne. C'est la nouvelle Agence fédérale en investissement de la défense. Et là, je dois avouer, tu m'as surpris cette semaine quand tu m'as dit « Si on est un pays, on va avoir une armée.
Yes. »
Ça sera pas une armée pacifique. Fait que là, je me suis dit « Hey my God, Antonine va aller attaquer les autres pays. »
Moi, je suis une personne bizarre, OK? Je suis un peu, tu sais, je suis une personne centre-gauche, souverainiste, mais je suis pro-armée. Puis
ouais.
je supporte absolument nos troupes, nos forces armées canadiennes. Je suis pas... Tu sais, j'aime pas la guerre particulièrement, là, mais je pense que quand t'es un pays qui se respecte, puis un pays du G7, ben, faut que t'aies une armée qui soit bien équipée, qui soit bien financée et qui ait le support aussi des citoyens. Moi, j'ai un énorme respect pour les gens qui se dévouent dans le secteur
clairement.
Militaire. Maintenant, depuis que Mark Carney est arrivé le printemps passé, on a fait plein d'annonces de dépenses militaires. On veut réduire notre dépendance avec les États-Unis aussi. On avait notre meilleur ami, c'était le gars le plus fort de la polyvalente, c'était le fun.
Ben,
mais là,
ça.
Il s'est retourné contre nous puis il nous taxe notre lunch.
Hey, d'ailleurs, tu dis ça et je te fais entendre Mark Carney au mois de juin.
Il est temps pour le Canada de tracer sa propre voie. Nous ne pouvons plus compter sur notre situation géographique pour protéger les Canadiens et Canadiens face à ces menaces.
Ainsi, Mark.
Donc, il partait avec cette idée-là, de dire « Je ne peux plus me fier aux États-Unis, il faut que je développe mon armée. »
Il faut développer notre armée. Ensuite, on a mis cet objectif d'atteindre 2 % du PIB en dépenses militaires. C'est un objectif de l'OTAN. Ça fait des années qu'on en parle et qu'on ne le fait pas pour toutes sortes de raisons, parce que ce n'était pas nécessairement populaire, parce qu'on sentait que, de toute façon, notre meilleur ami, l'autre côté de la frontière, allait nous défendre s'il arrivait quelque chose, etc., etc. Et là, ben, cette belle époque est terminée. On a décidé d'y aller avec l'objectif de 2 % de l'OTAN. C'est beaucoup d'argent, là, en passant.
Oui.
Là, ça rajoute des milliards et des milliards de dollars au déficit qu'on va sûrement voir constater le 4 novembre
ouais.
prochain. Donc, maintenant qu'on a dit ça puis qu'on a annoncé des dépenses, si on veut vraiment dépenser l'argent, il faut changer notre système d'approvisionnement. Puis là, vous allez dire, mon Dieu, ça a l'air plate, l'approvisionnement. C'est crucial.
Mais c'est drôle ce que tu dis, ça l'emplate l'approvisionnement parce que c'est la même chose. Si tu veux couper à la ville de Québec, il va falloir que tu aies un système d'approvisionnement qui soit plus performant.
Absolument, absolument. Donc, tes achats que tu fais, là, les choses dont tu as besoin, tes dépenses, bien, une fois que tu les as annoncées, il faut que ça circule. Il y a des processus, il y a des approbations, machin, machin. En matière de défense, c'est extrêmement compliqué et c'est long et c'est très coûteux. Hein. Ce n'est pas des petits achats. On ne parle pas d'acheter des petits stylos à billes pour les fonctionnaires. Là, c'est des choses qui coûtent extrêmement cher. Donc là, ce qu'on veut faire avec cette nouvelle agence qu'on a annoncée, on a annoncé le nouveau PDG aussi, il s'appelle Doug Guzman. Il est issu du secteur privé. On sait que Mark Carney veut mettre plus de réflexes et de compétences de gestion issues du privé. On veut simplifier le processus, le rendre plus agile. On veut abolir les approbations redondantes. Il y a des doublons. C'est extrêmement long. Il y a plusieurs ministères impliqués, hein, défense, justement approvisionnement, il y a aussi l'innovation. Parce que l'autre objectif que Mark Carney a, c'est de créer une espèce de secteur économique aussi au Canada. C'est-à-dire qu'on achète beaucoup à l'étranger, on achetait beaucoup aux États-Unis. Mais est-ce qu'ici au Canada, on est capable d'avoir un secteur de production de matériel militaire et d'armement? C'est ça la question. Ça va être plus long, évidemment. Et juste pour vous illustrer comment les processus peuvent être longs, je veux juste vous rappeler, peut-être que ça vous dit quelque chose, la saga des F-35.
Bien sûr!
OK, c'est Stephen Harper qui avait annoncé l'achat des F-35.
En 2015, 2016?
Ça fait 15 ans.
Ah, plus loin que ça, 2010!
2010! Et je veux juste vous dire, les avions sont toujours pas dans le cours. Là.
Non, c'est
ça. On les a pas. Il y a eu toutes sortes aussi, bon, enquête du VG au palier fédéral, dépassement de coûts, des retards. On n'a toujours pas les avions. Donc, voyez-vous comment ça ne marche pas, là? Il faut absolument changer ce processus-là. Peut-être que vous sentez que c'est loin de vous, mais en même temps, si on veut atteindre nos objectifs et baisser notre dépendance aux États-Unis, c'est absolument crucial. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je salue quand même, tu sais, quand on dit qu'on donne des bons points puis des beaux collants à tout le monde, puis des fois, on donne des pots à tout le monde aussi. Aujourd'hui, je donne un collant à Mark Carney parce qu'il essaie de rendre la machine plus efficace. Il pose des gestes. Il a mis à la tête la fonction publique canadienne Michael Sabia. Il veut vraiment changer cette culture au palier fédéral parce que c'est pas toujours efficace. Bon, ben, aujourd'hui, il y a cette annonce qu'on met en branle, puis je la salue.
Garde ton pot pas loin pour le 4 novembre, là, quand il y aura 100 milliards
facture,
de exactement. Mais cela dit, ça va être une belle relance également pour le Québec aussi en matière économique. François Legault en parlait là, d'ailleurs.
Il veut en profiter. C'est sûr que notre secteur lié au militaire et à la défense, c'est plus embryonnaire au Québec. Ouais. Mais bon, il y a peut-être des opportunités d'affaires aussi.
Caroline Proulx a écrit ceci hier sur sa plateforme X. Il y a quelques mois, j'ai perdu ma mère de façon subite et violente. Mes sympathies à la famille de Caroline Proulx et à Caroline Proulx. Dans le tourbillon de la vie politique, je n'ai pas eu le temps de traverser pleinement ce deuil. Je prends donc une pause de quelques semaines pour souffler et me recentrer. Donc, la nouvelle ministre responsable des aînés de la condition féminine va prendre un pas de recul à la suite du décès de sa mère. Et là, tu me demandais, puis je vais poser la même question aux auditeurs, 418-971-1021, tu me disais, « Hey, Jeff, ça doit être plus accepté dans la société d'aujourd'hui, ça? »
Oui, en 2025, tu sais, il y a quelques années, on n'aurait pas vu ça. En fait, on nous aurait sûrement dit « pour des raisons de santé ».
Oui, c'est vrai.
Ça aurait été plus flou, un petit peu moins transparent. Même des ministres, pour des raisons de santé physique, c'est compliqué. Moi, j'ai travaillé pour une ministre qui a eu un cancer pendant son mandat et c'était d'une extrême complexité. Puis juste le fait de devoir se justifier, annoncer en public que t'es malade, c'est pas toujours drôle. Là. Je veux pas sortir les violons pour les élus, mais ça fait quand même partie de leur réalité.
Oui, puis c'est pas toujours évident non plus, en tant que personnalité publique, de venir te mettre à l'avant-plan dans un moment de vulnérabilité. Là. C'est carrément ça que Caroline Prouvy a dit. Hey, là, je viens de frapper le mur.
Je vais te conter une anecdote personnelle. Moi, j'ai eu un cancer en 2016.
OK, je savais pas ça.
Moi, je suis une personne qui vit les choses plus difficiles en petit cercle. T'sais, je suis pas quelqu'un qui va écrire ça sur Facebook, mettons.
En effet.
Et j'ai même des gens, quand j'ai eu terminé mes traitements puis que tout allait bien puis qu'on m'a dit que c'était terminé, là, j'ai fait un petit statut pour dire que voici ce qui m'est arrivé puis ça va mieux et tout ça. Puis j'avais des membres de ma famille qui étaient fâchés.
Ouais, ben,
après moi, de ne pas leur avoir dit, mais c'est juste moi qui n'est pas une ministre, là. Je trouvais ça difficile de vivre ça en public. Donc, imaginez pour les personnalités publiques.
Bien, j'ai déjà... j'en parle maintenant à la radio, là, de mes idées noires puis de ma tentative de suicide. Mais la première fois que ma mère l'a su, c'est quand j'en ai parlé pour la première fois à la radio. Elle voulait m'arracher la tête.
Elle
dit, comment ça, tu m'as pas parlé de ça? Parce que j'en ai parlé à mon frère, à mon ami Pascal, à mon ami Tommy. C'était ma garde rapprochée. C'était ces trois-là qu'ils savaient. Le reste, personne ne savait ça jusqu'à temps que je... Ben, ce serait bon, j'en parle à la radio. Le lendemain, j'ai callé ma psychologue pour dire, OK, ouais, je récupère ça comment, là, tous les messages de haine?
Un petit heads up.
Non, j'avais dit, écoute pas la radio, mais l'écouter.
Ah, ben
mais
oui.
Je trouve ça tellement important qu'on normalise ça, des personnalités publiques, oui. Justement, qui sortent, qui en parlent, parce que aux yeux de la population, ça normalise le fait d'aller moins bien par moment, ça normalise le fait d'avoir des moments difficiles, puis tout le monde en a. Puis si tu as besoin de prendre du temps pour toi, pour t'en remettre, moi, la santé mentale, que ce soit santé mentale ou santé physique, il faut que ça passe avant toute autre chose, oui. Même ton emploi, peu importe quel poste que tu occupes.
Absolument. C'est sûr, pour les élus, c'est encore un peu tabou, puis vous allez en voir des commentaires sur les médias sociaux de gens qui disent « D'abord, pourquoi qu'il l'a nommé ministre? » Bon, on va peut-être voir des choses comme ça. Il faut savoir que c'est Lionel Carman qui va reprendre sa responsabilité pendant son absence.
Donc, un homme ministre de la condition féminine?
Et voilà, Jeff, on a un homme qui est ministre de la condition féminine. Il y a un précédent. Devine c'est qui. Devine c'est
Jean Charest, il s'aimait.
Écoute, c'est René Lévesque.
René Lévesque?
L'autre ministre homme
pourtant,
de la condition féminine.
On disait que tu pouvais aimer les femmes.
Ben justement. Il était bien heureux d'avoir ce dossier-là. En fait, ce qui s'était passé avec René Lévesque, c'était qu'il y avait eu une fronde autour de lui à un moment donné. Ouais. Il y a des députés qui ont quitté, dont sa ministre de la condition féminine.
Là, il l'a pris par la barbe.
Il a pris le dossier pendant un petit bout temporairement, mais on a un homme en ce moment qui est ministre de la condition féminine. Moi, je suis pour ça. Je vais vous dire.
Moi aussi, puis en plus,
pourquoi pas?
Lionel Carman est tellement swell. Ben, c'est une personne tellement calme.
Ben oui. Puis l'important, surtout, c'est que les dossiers continuent d'avancer.
C'est ça.
Puis le ministère des Années, en passant, c'est un ministère qui a déjà fait partie de d'autres ministères. Je pense que c'est bien correct. Et quand une députée, un bureau de comté, là, est pris en charge quand la députée est absente par le WIP, normalement. Fait que ça fait partie de la vie si un député démissionne ou est malade. On laisse personne tout seul. Mais c'est vrai que la question de faire un deuil en public comme ça, puis ceux qui suivaient un peu les médias sociaux de Caroline Proulx, elle était très proche de sa mère. On voyait souvent des photos avec
sa maman. J'ai fait justement une petite virée sur les médias sociaux tout à l'heure, là, puis même sa maman m'en avait été interviewée à la télé, puis c'était une grande fierté pour elle, donc tu voyais vraiment que...
Non, je pense que Caroline Proulx passe un moment qui est relativement difficile. En plus, il faut le dire, il y avait une petite controverse, peut-être que vous ne l'aviez pas vu passer, là, avec quelqu'un qui avait envoyé un message par erreur, qui avait fait une blague à la suite de l'annonce du décès de sa mère, et ça l'avait beaucoup insultée. Elle était sortie sur les médias sociaux pour en parler. Donc, bref, on lui souhaite un bon congé, puis on espère aussi que tout le monde comprend que de nos jours, effectivement, je pense qu'on peut se permettre de dire publiquement que pour prendre soin de sa santé mentale, on peut prendre une pause une fois de temps en temps.
On lui envoie énormément d'amour. Après la pause, ce sera Rémi Villemur qui devance sa chronique aujourd'hui pour nous, parce qu'aux alentours de 13h, on aura Sol Zanetti, député de Québec solidaire dans le comté de Jean Lesage, en entrevue. Et avec Rémi Villemur, on va notamment parler de ceci.
Pas humain, si on aura sous-entendu que je manque d'humanité, ça vient du chef du Parti libéral. On m'aura traité de communiste, de nazi, ou en tout cas, on aura fait des références à la race aryenne sur la première chaîne de Radio-Canada.
Et pourquoi pas tous blonds yeux bleus?
Vous allez là,
profondément.
Ben oui, pourquoi pas, tu sais.
Le National Post me compare au Hamas, puis le ministre de la Justice dit que je m'attaque à des enfants.
Il s'attaque aux enfants à l'école primaire.
C'est pas normal, cela, là. Pourquoi on n'est pas capable de débattre de... Quelle est la meilleure politique publique pour nos écoles ou pour les lieux publics, là, les prières, pour générer une paix sociale puis un vivre ensemble qui fonctionne?
Alors, on parle de ceci avec Rémi Villemur après la pause. Est-ce que la politique est rendue trop sale? Pourquoi on ne fait pas de débat d'idées maintenant et on fait plus des débats de personnalité? Vous êtes à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. On en jase.